Ah, merci d'être avec nous, amateurs de sport, ce soir. Un excellent début de soirée, tout le monde. Exactement 19h05. C'est l'heure d'accueillir Ray Lalonde avec la chronique sport et business. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Permets-moi juste de dire que Benoît Brunet sera avec nous dans les prochaines minutes. Mathieu Darche également. Mathieu va commenter un sujet qu'on va aborder également ensemble, c'est-à-dire l'impact du contrat d'Austin Matthews sur la solidarité des joueurs et la prochaine convention collective. Mais dans un premier temps, avant de parler de tous les sujets qu'on veut attaquer ce soir, toi, ta réaction au contrat de 5 ans d'Austin Matthews, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est quoi ta réaction à ce contrat-là à coup de bonnie avec un salaire annuel comme Carey Price là, de 1 ou 2 millions? Là, on joue autour de la convention.
On contourne le problème réel, Mario. Et un, je vais affirmer d'abord que je suis content que les joueurs gagnent le maximum d'argent possible. Les carrières sont courtes, il y a beaucoup de risques dans le sport professionnel. Deux, je vais te dire de façon franche, là, je trouve que le hockey ne peut pas tenir tête au baseball, à la NBA ou à la NFL, à verser des salaires de cette envergure-là et des sommes d'argent promises en argent garanti dans une économie du hockey qui se porte bien à Toronto et dans quelques gros marchés, mais que d'autres équipes se font complètement dérailler parce qu'ils n'ont pas la liquidité pour suivre ces équipes-là, malgré la présence d'un cap salarial.
Tu penses à Ottawa, là?
Oui, Ottawa.
Avec, par exemple, les cas Duchesne et Stone.
Qui s'en viennent, et le cas de Carlson l'année passée.
Qu'est-ce que tu fais pour garder ces gars-là s'ils te demandent, exemple, avec leur agent, en prévision de peut-être un arrêt de travail d'un an, ben OK, on va rester à Ottawa, mais je vais prendre un boni de 10 millions, tu sais, en tout cas...
Oui, on se comprend. Alors, Mario, mon point, c'est ça, justement, c'est que là, même dans un modèle de cap salarial, plafond salarial avec un plancher, à la fin, les équipes les plus fortes financièrement vont submerger les équipes plus faibles et rendre la vie très difficile pour eux si on s'en va dans un modèle de promesse en bonnie.
Dirais-tu que c'est la première fois que ça va se produire, qu'on redevienne ou que ça redevienne une ligue à deux vitesses depuis l'instauration du cap salarial?
Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.
Puis ça a été long quand même. Donc, le système a fonctionné un bout de temps, mais là, il va falloir donc...
Il va falloir qu'on peaufine et qu'on raffine
le modèle. Éliminer les bonnies, non?
Ben, il va falloir que ça soit une discussion, puis ça va être une discussion relevée dans la prochaine négociation, c'est sûr.
La dernière négo a permis de mettre fin au contrat de 10-12 ans. Crosby sur un contrat de 12 ans, par exemple. Weber sur un contrat là, interminable. On a limité à 8 ans pour une équipe qui garde son joueur et à 7 ans pour une équipe qui amène un joueur
dans une
autre
ville. On s'en va dans le bon sens, Mario, avec ça. Absolument.
Donc là, on va continuer de travailler là-dessus.
Je crois que oui, parce qu'à la fin, c'est collectivement. Premièrement, je répète, le hockey est en bonne santé financière. Le hockey n'a jamais connu autant de succès au niveau commercial, Mario. Mais là, ce sont des contrats dangereux. Je répète encore une fois, les joueurs devraient en faire le maximum. C'est pas à faute des joueurs, là. C'est que là, on commence à trouver des façons de contourner. Et même si les Maple Leafs ont les moyens, ben ils ont des équipes dans les mêmes divisions ou dans la même conférence qui ne pourront pas suivre cette vitesse d'accélération-là.
Et j'ai hâte de voir s'il va y avoir des mouvements de personnel liés à ces situations-là de Bonnie assez rapidement, là. Parce qu'il y a un paquet de gars qui testent l'autonomie cette année, là.
Ben, Mario, profitons-en pour faire tout de suite la transition vers le baseball. Parce que je voulais t'aborder aussi ce soir sur les agents libres et le marché d'agents libres au baseball qui est en gel total ou presque. Parce que les deux plus grands noms, Manny Machado des Dodgers, Bryce Harper des Nationals, qui veulent tous les deux attendre que l'autre signe pour justement relancer le chiffre, veulent tous les deux des contrats à peu près 10 ans, 300 millions. Mais Mario, on est à une semaine des camps d'entraînement. Il y a 80 joueurs de baseball qui n'ont pas de contrat encore aujourd'hui, agents libres. Et qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Appelle-le de la collusion, appelle-le un ralentissement, appelle-le une certaine forme de fraternité. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que les propriétaires se sont rendus compte que des longs investissements de 10 ans à la Albert Pujols, tu comprends, des joueurs de ce niveau-là, où tu es attaché pour 25 millions de dollars pendant de nombreuses années, c'est pas la bonne façon de construire une équipe championne. Parce que ton argent, tu vas la payer, tu vas t'attacher et même t'affecter au niveau de ta souplesse dans tes négociations futures avec d'autres jeunes vedettes. Alors, ça a tout le même rapport. C'est que si tu dépenses trop, l'économie ne suivra pas. Et malgré la richesse générale des équipes sportives, ben il faut
malgré
quand même...
Malgré le partage des revenus de la télévision...
Malgré tout ça. Il faut quand même gérer avec prudence et savoir comment, de façon judicieuse, dépenser son argent.
Et prends les Yankees, d'ailleurs, il y a eu un changement de cap chez les Yankees il y a quelques années quand ils ont décidé d'arrêter de payer la taxe de luxe. Et s'il y a une équipe qui a les moyens de tout dépenser, mais ils ont... Puis en même temps, il y a quelque chose de pas tellement valorisant si tu gagnes un championnat parce que tu dépenses 100 millions de plus que les autres.
Absolument. Puis d'ailleurs, les plus grands dépensiers l'an passé, c'était les Red Sox, c'était les Dodgers, c'était les Yankees. T'sais, alors, et qui s'est retrouvé loin en séries éliminatoires? Encore une fois, le baseball aura un jour l'obligation de mettre un cap salarial. Ils vont le faire, c'est juste une question de temps. Ils résistent et pour le moment, les joueurs récoltent. Mais ce qui se passe en attendant, Mario, c'est que les agents libres ne peuvent plus, en saison morte, espérer frapper le gros lot automatiquement.
Et là, est-ce qu'ils vont crier à la collusion ou, dans le fond, ça se peut qu'un paquet de dirigeants d'équipe ait compris le bon sens en même temps de dire, moi, des contrats de 250 millions, j'en donne pas?
Ben moi, je pense que ça va être des contrats plus courts, d'abord. On va s'entendre là-dessus parce que Machado et Bryce Harper vont jouer à quelque part cette année. Mais ça ternit l'image du baseball, Mario, parce que t'as des partisans d'équipe qui souhaitent que leurs joueurs étoiles soit reviennent, comme Bryce Harper à Washington, ou que d'autres équipes ne peuvent pas vendre et s'en servir commercialement pour vendre des billets pour l'année. Parce qu'on est à une semaine, là. Une semaine de l'ouverture des camps de baseball. Puis les deux plus gros noms du marché d'agents libres, pardon, sont toujours disponibles.
Mm-hmm.
Bon, alors, ça va donner des contrats d'un an ou court terme, de façon à se réessayer de nouveau l'an prochain.
Mais est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas de contrat juste parce qu'ils sont trop gourmands en terminant là-dessus?
Un peu des deux. Je pense que, mais ils ont raison d'être gourmands parce que des joueurs qui ont déjà été payés.
Ils veulent frapper un home run, les orgueilleux, ils veulent devenir le gars le mieux payé.
Mais je pense que les propriétaires sont un peu plus alertes, si tu veux, et effectivement plus prudents dans leurs dépenses à long terme.
Tu nous as parlé au cours des dernières semaines, dernières années, d'une dégringolade continue pour l'écoute de ESPN, le réseau sportif qui a vraiment changé la nature de beaucoup de choses dans la télédiffusion sportive en Amérique du Nord et même dans le monde. Mais évidemment qu'une compagnie de cette envergure-là survire de et c'est sur le numérique. Comment ça va avec ESPN+? Il semble qu'il y a des résultats encourageants de ce côté-là.
Très encourageant, Mario. Ils ont atteint ce mois-ci 2 millions d'abonnés. Ça fait à peu près un an. Ils ont eu 600 000 abonnés le mois dernier seulement. La raison principale, c'est qu'ESPN devait se moderniser. L'écoute classique traditionnelle de la télé sur le câble ou le satellite est virtuellement abandonnée au quotidien aux États-Unis et au Canada aussi. Alors, ce qui se passe, c'est que les jeunes suivent sur le stream vidéo avec ce qu'on appelle « over the top », OTT, ce qui veut dire finalement tout ce qui n'est pas branché à un abonnement, tout ce qui n'est pas linéaire comme à l'habitude. ESPN a lancé ESPN+, c'est-à-dire pour $4.99 par mois US, sur ton téléphone intelligent, tu as accès à une sorte de programmation complémentaire à celle d'ESPN. Mais le deal, c'est qu'ils ont signé une entente de 5 ans, 1,5 milliard de dollars avec la UFC. Alors, ESPN va prendre le contenu UFC et le garder en exclusivité sur ESPN+. Alors, si tu veux voir le UFC comme on le connaît, ça ressemble beaucoup au deal de DAZN avec Canelo Alvarez dans la boxe. Alvarez est attaché pour ses 11 combats, il en reste 10, sur DAZN au coût de $365 millions pour lui, pour 5 ans. Alors, ESPN s'est attaché 1,5 milliard de dollars pour avoir la diffusion exclusive à part du pay-per-view sur ESPN de tous les combats UFC. Alors, ça occasionne une hausse et un intérêt augmenté d'abonnements. Et à $4.99 par mois, ESPN est très fier d'annoncer 2 millions aujourd'hui, puis ça va se continuer dans la nouvelle direction, parce que l'investissement numérique est la nouvelle direction.
Mais les autres réseaux, NBC Sports et compagnie, vont eux aussi entretiennent une certaine activité sur le numérique. Alors, est-ce que tout le monde, dans la guerre des parts de marché et des revenus, comment tu penses que ça va se traduire, ça, dans, disons, si on essaie de se projeter dans 5 ans d'ici?
Non, là. Même pas, Mario, 2 ans d'ici. Ça va être 2 ans. Là. Tout ça se transforme au fil de 2 ans après 2 ans, et toutes les grandes chaînes traditionnelles, les conglomérats médias de NBC Universal à Fox, à CBS, à ABC Disney, bien entendu, vont tous acheter des propriétés et les garder exclusivement sur leur plateforme numérique pour eux aussi se connecter à une génération plus jeune qui suit le contenu sportif à leur façon, on demand, à la demande, sur ton téléphone intelligent, sur ton appareil à la maison, à l'heure et au moment que tu veux. Donc, ils vont tous se jeter dans l'acquisition de droits de contenu.
Vont-ils saboter leur chaîne première, ce faisant?
Non, ils croient encore que le côté live, en direct, de contenu sportif, qui est majoritairement à la télévision classique, va survivre à ça. Mais c'est tout le reste, Mario. Fait que finalement, on va t'offrir du contenu complémentaire de peut-être deuxième niveau, en direct aussi, disponible sur les apps et sur les plateformes numériques.
Juste avant de passer à des nouvelles qui touchent ou qui sont en lien avec la technologie, un mot sur le dernier classement de la valeur des équipes de la NBA. Rick, ça vient d'être publié. Là, on n'a pas eu le temps de l'étudier. Je vais juste te donner le grand titre parce que ça a été publié par Forbes là, au cours de la dernière heure. Les Knicks, toujours au-dessus du palmarès des équipes qui valent le plus cher à 4 milliards, mais la valeur moyenne des équipes dans la NBA est de 1,9 milliard de dollars.
US.
Y a-t-il encore quelqu'un à Montréal qui veut un club de la NBA?
Ça donne 2,5 milliards canadiens comme prix d'entrée pour une équipe d'expansion. Alors, il faut encore réfléchir. Excellent investissement pour n'importe qui embarque dans une propriété sportive, quelle que soit la ligue, y compris la MLS. Mais le prix d'admission s'en va vers le haut rapidement. Les revenus sont exponentiels, Mario. C'est fulgurant là, ce que ça peut générer. Mais la question, c'est de dire, est-ce qu'on a l'argent pour anticiper payer cette facture-là pour entrer dans cette ligue-là, comme c'est le cas dans le baseball majeur aussi.
Restons dans la NBA, mais cette fois dans les nouvelles en lien avec la technologie. Tu connais, on connaît tous EA Sports, mais il y a un autre fabricant de jeux de la même nature qui est 2K Sports. La NBA est associée avec 2K Sports. Il y a du nouveau là-dedans.
Ouais, ce que je voulais aborder, c'est que c'est une autre entente qui est très, très élevée. 1 milliard de dollars de droits de licence entre la NBA et Take-Two Interactive qui produit 2K. 2K voulant dire NBA 2K, les jeux, qui est le numéro un mondial dans les jeux sportifs vendus en 2018. C'est impressionnant. Et c'est un droit de licence pour 7 ans. Alors, tu parles de produits, ce qu'on appelle en anglais « billion dollars », de milliards de dollars. Bien, juste une entente de licence avec une commission de 15-20% de royauté, Mario, va générer 1 milliard de dollars à la NBA, ne serait-ce que pour donner l'utilisation de leur image de marque, de celle de leurs équipes et de celle de leurs joueurs pour la création de contenu vidéo. Alors, c'est une parmi plusieurs nouveautés en technologie dans le sport qui fait en sorte que l'avenir du sport, c'est du côté numérique et technologique.
Petite parenthèse avant de poursuivre en technologie. Es-tu tombé sur le derrière d'entendre les rumeurs à propos de la possibilité que les Raptors échangent Kyle Lowry?
Écoute, non, dans le sens que je pense que les Raptors doivent tout faire pour satisfaire Kawhi Leonard et tenter de le garder. Et si ça implique une transaction pour rajeunir ou transformer l'équipe un peu, je comprends pourquoi ils le feraient. Écoute, Mario, les Pelicans doivent tenter d'échanger Anthony Davis. Anthony Davis, je vous le rappelle, a refusé un contrat de 5 ans, 240 millions de dollars. Le contrat qu'on appelle Supermax dans la NBA. Alors, il a même nommé les 4 équipes auxquels il serait intéressé à se joindre.
Est-ce que Toronto fait partie?
Non, Toronto ne fait pas partie de ceux-là. Non, il n'y a pas de lien là. Ce que je veux dire, c'est que les joueurs dans la NBA qui sont des super vedettes dictent le contenu et dictent la direction dans laquelle ça prend. Alors, Kyle Lowry n'est pas Anthony Davis, mais Kyle Lowry est très important et un atout majeur pour n'importe quelle équipe. Et les Raptors, surtout, doivent penser à l'avenir avec Kawhi Leonard ou non.
Retour à la technologie dans la Ligue nationale de hockey pour boucler la boucle ce soir. Ray, la Ligue nationale et la réalité virtuelle, les puces utilisées, on a dévoilé ça pendant le match des Étoiles. Quel est l'intérêt business? Comment on va faire plus d'argent en instaurant ça? C'est-tu pour juste générer plus d'intérêt ou il y a d'autres possibilités de développement?
D'abord, Mario, ils ont fait les premiers tests lors de matchs entre les Golden Knights, San Jose et les Rangers, je crois, il y a à peu près un mois. Lors du match d'étoiles, tous les joueurs étaient munis de puces à plusieurs endroits dans leur équipement et les rondelles aussi. Les rondelles sont fabriquées par un manufacturier en technologie en Allemagne. Les puces vont faire partie de la Ligue nationale de hockey à temps plein l'an prochain. On va pouvoir fournir beaucoup d'informations, d'intelligence et de données analytiques aux équipes et aux entraîneurs.
Et aux parieurs?
Exactement. Quand on parle d'équipement, c'est 200 data par seconde. Et de rondelles, c'est 500 data par seconde, qui va permettre aux entraîneurs de directement analyser sur le banc des joueurs la vitesse d'exécution, les lancers, la vitesse de patinage, la durée, de toutes sortes de données qui vont servir, Mario, ultimement, au consommateur qui veut parier sur les matchs. Fait que la façon dont ces ligues-là vont transformer et monétiser ces informations-là, c'est de l'offrir au meilleur preneur qui va interpréter ça pour le consommateur et inciter le consommateur à dépenser davantage dans son pari sportif. Alors, donc, il y a une raison business, bien sûr, derrière ça. C'est on veut de l'intelligence, mais on veut de l'intelligence qui est connue, qui est publique, qui est partagée. Et la vitesse d'exécution dans cette réalité virtuelle-là va permettre aux équipes et aux ligues de se monétiser davantage.
Fort intéressant. Encore une fois, une belle chronique sport business. Et laisse-moi compléter la chronique de ce soir juste avec quelques données pour boucler la boucle avec le contrat d'Austin Matthews. Tu dis que les joueurs de hockey vedettes gagnent trop d'argent. Et on va en discuter tout à l'heure avec Mathieu Darche, quelle incidence sera sur la solidarité du syndicat des joueurs. Mais tu réalises que Sidney Crosby, là, quand on considère l'ensemble de ses contrats, a 20 ans de contrat, 158 millions de dollars de revenus en contrat de hockey seulement pour les 20 ans de carrière, pour une moyenne de 7,9 millions par année. Et Malkin, lui, a des contrats étalés sur 16 ans pour 131 millions, mais un salaire moyen plus élevé que Crosby à 8 millions 187 000. Mais c'est de l'argent, effectivement, dans le monde du
hockey. Et dans le cas de Crosby et Malkin, ils ont livré 3 coupes cette année aux Pingouins. Tu sais, je veux dire, honnêtement.
L'organisation.
On a eu pour l'argent.
Rendre son argent, c'est
et
ça.
Je pense qu'Austin Matthews, c'est un excellent investissement parce que lui et Tavares et Marner vont faire la différence pour les Leafs pour plusieurs années. C'est juste que faut pas penser que notre économie en termes de rentrée d'argent à la Ligue et aux équipes, parce que des équipes plus faibles et démunies dans le hockey peut se comparer et même concurrencer certaines équipes riches. Et c'est là le danger.
Ray, pour les gens qui en veulent davantage, eh bien, vous pouvez réécouter les chroniques de Ray, bien sûr, dans les audios de 98.5, mais aussi, vous pouvez le suivre sur Twitter, également, ses chroniques Focus sur SoundCloud et YouTube. Toujours un plaisir. Merci beaucoup,
Salut,
Ray.
Salut, Mario. Merci.
Et à très bientôt. Dans un instant, nous enchaînons avec Benoît Brunet, qui lui a inscrit son premier point en carrière dans la Ligue nationale. Il y a 30 ans, le soir que Guy Lafleur effectue un retour dans l'uniforme des Rangers. Ça te donne une idée, hein? Mais on va parler du Canadien hier également. À tout de suite.